Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.
Bonjour, j'espère que vous avez passé de bons sédarim. Voilà, ça c'est maintenant derrière vous. Et maintenant, il y a les 8 jours de Pessah où on ne mange pas de pain, mais enfin, on n'a plus besoin de préparer d'énormes repas. Voilà, donc aujourd'hui je suis seule et Astrid n'est pas là. Nous allons continuer notre voyage de Pessah, toujours sur les traces de Daniel Stauben, scène de la vie juive en Alsace, préface de Freddy Raphaël et des illustrations choisies par Malou Schneider, qui est la conservatrice honoraire du musée alsacien de Strasbourg. Ce livre a été écrit dans les années 1850-60, et donc là, il nous décrit un céder, donc en Alsace, à Bollwiller, chez des juifs évidemment alsaciens. C'est Pessah, hein, voilà. Donc ce Daniel Stauben vient à Pessah voir un peu comment se passe un céder. Alors nous retrouvons vraiment les différentes étapes qu'on connaît très bien du céder qu'on fait partout. Cette année-là, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, et donc pour cette fois-ci, je vais attirer l'attention sur un personnage dont je vais vous présenter. Alors, donc, voilà ce que dit le chef de famille. Comme tous les chefs de famille juifs pendant le Seder, voici le pain de misère que nos pères ont mangé en Égypte. Quiconque a faim, qu'il vienne manger avec nous. Quiconque est nécessiteux, qu'il vienne faire la Pâque. Et donc, qui est-ce qui illustre cette invitation? Donc, évidemment, sont invités autour de la table tous les membres de la famille. Daniel Stauben lui-même, qui est un lointain parent et qui n'est pas du tout quelqu'un de pauvre, mais il y a le mendiant Lazare qui met d'une manière touchante l'application en regard du précepte. Voilà, donc on passe par toutes les étapes, comme j'ai dit, je ne vais pas reprendre, mais je vais insister un petit peu sur ce personnage de Lazare. Voilà, donc c'est... Il y avait longtemps, bien longtemps déjà, que Lazare venait chaque année aux grandes fêtes s'asseoir à cette table. Ces jeunes filles, ces jeunes gens, elles les avaient connus enfants. Et en répondant à mon hôte, en le questionnant à son tour, il passait devant son nom la formule de « Herr, monsieur ». En revanche, il n'appelait ses filles, les filles et les fils de Salomon, que par leur petit nom. Ce petit vieillard, personnification saisissante de la Judée nomade, cumulée, je l'ai déjà dit, avec le métier de schnorrer, mendiant, celui de marchand de livres hébreux. Voilà, donc ça c'est un métier intéressant, hein, c'est-à-dire c'est Meurer Sforim ou Pekler, donc ce sont ces gens qui parcouraient les pays, donc aussi bien la Pologne, la Russie que l'Alsace, comme nous venons de l'apprendre, en trimballant des livres. Et donc, c'est souvent des livres religieux et souvent les jeunes garçons et les jeunes filles cherchaient désespérément aussi un petit livre en yiddish avec des histoires comme celle de Heiser Meyerdick. Mais la plupart des livres étaient quand même des livres religieux, d'ailleurs décrits aussi par Shalom Aleichem. En cette double qualité, donc de schnorreur et de colporteur de livres, il parcourait pendant l'année entière toutes les villes, tous les bourgs et tous les hameaux d'Alsace, de Haute et Basse-Alsace. Aussi connaissait-il son monde juif à 1030 lieues à la ronde. C'était un gazetier ambulant, une chronique vivante que ce brave Lazare. Salomon, à chaque fête, se plaisait pendant le repas à le faire jaser, Lazare, qui n'était pas fâché de payer à sa façon et avec sa monnaie l'hospitalisation qu'on lui accordait, versait à pleine main toutes les nouvelles qu'il avait pu recueillir dans les intervalles de sa vie tant peu vagabonde. Alors ensuite, il lui dit, tout d'un coup, le père Salomon, « Comment vous traite ce Yontef ?» Et l'autre répond, « Sur mon âme, monsieur Salomon, on se trouve mieux ici que sur la grande route. Toute l'année durant, je mène une rude vie. » Et les petites affaires, continua Salomon, « Ne m'en parlez pas. Vous dirais-je que tout ce qui sort des imprimeries de Redelsheim et de Sulzbach ne se vend quasiment plus. » Voilà, très intéressant. Donc, on voit là qu'il y avait des imprimeries qui éditaient des livres en hébreu dans des petits villages. Hein. Autrefois, à l'approche de Pâques, je vendais des Haggadahs en masse aux environs de Rosh Hashanah et de Kippour. Je ne pouvais suffire dans les foires à toutes les demandes pour les recueils des prières de ces grandes fêtes. La fabrique, dont j'avais la confiance, me les passait à un prix fixe modéré. Et ce que je pouvais en tirer en plus était pour moi. Mais depuis quelque temps, il leur est venu en idée à Paris de traduire en français Bible, rituel, Agada et prière pour les grandes fêtes. Tout, enfin. C'est une abomination. Est-ce que Dieu peut et veut être prié dans une langue autre que la langue de nos ancêtres? C'est dans la grande Bofel, donc Babel, qu'on imprime ces belles choses. On envoie ces abominable traduction dans tous nos villages où des messieurs comme le gros Gersh vont les colporter. Et que dire, monsieur Salomon, que la plupart de ceux qui les achètent ne comprennent pas plus le français que vous et moi. Mais que voulez-vous? C'est la mode à présent, à ce qu'il paraît. Aussi vrai, voyez-vous, que nous avons un Dieu unique, créateur du monde, aussi vrai que c'est aujourd'hui le premier soir de Pessah. Dans tout Israël, tout cela ne peut nous amener que des malheurs. Qui est-ce qui a perdu Yerushalayim? Les impies et les novateurs. Laissez faire, les impies et les novateurs de Paris nous empêcheront d'y retourner et de la relever. C'est moi qui vous le dis. Le vieux mendiant allait commencer une sorte de prédication, plutôt de lamentation religieuse. Le père Salomon lui l'interrompit pour lui demander des nouvelles du pays. Voilà. Et donc après, on part dans les histoires de mariage et tout ça. Alors, c'est très intéressant parce que ça montre que là, donc en 1858, nous sommes en plein mouvement où les prières sont traduites en français. Hein. Donc, c'est pas seulement que c'est les éditions bilingues que nous connaissons bien, hein, les éditions du Relâché. Mais apparemment, des livres de prière, des agadotes entièrement en français pour un culte évidemment réformé. Alors, on sait que pour la Agada, il est dit qu'il faut faire ce récit et on peut le faire dans la langue du pays, hein, ce qu'on appelle la langue vernaculaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas absolument obligé de le faire en hébreu et en araméen. Mais on a quand même gardé cette coutume de le faire en hébreu, quitte à traduire, quitte à expliquer. Par contre, les prières des grandes fêtes, on doit les faire en hébreu. Hein, donc, on est revenu ensuite à l'hébreu. Je crois que maintenant, dans toutes les synagogues du monde, on prie en hébreu. Et je dois dire que c'est quand même très agréable qu'on arrive n'importe où dans dans un pays lointain. Hein, on arrive en Amérique du Sud, on arrive... en Asie, je ne sais pas trop, bon, sauf qu'il y a partout des Lubavitch, mais enfin, quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, eh bien, on peut suivre les prières et on peut suivre également la lecture de la Torah, puisque dans le monde entier, on lit la même paracha au même moment. Voilà, donc c'est ce mendiant-là, ou ce vendeur de livres, se plaint que maintenant, les gens ont perdu cette habitude de prier en hébreu. Hein. Donc, à ce moment-là, on prie en français, y compris les gens qui ne comprennent pas le français. Alors ça, c'est toujours le côté un petit peu ironique de Stauben. Bon, il le met là dans la bouche d'un des personnages, mais il dit lui-même qu'on est dans une période où les Alsaciens ont du mal à parler le français, même s'ils veulent le parler. Et c'est important pour eux, et c'est vraiment la modernité, c'est aussi l'entrée dans la société, hein, de parler français. Mais enfin, les gens ne parlent pas français si facilement que ça. Voilà, ben on va écouter une musique sortie d'un enregistrement d'un concert qui s'appelle, donc le livre s'appelle Meshuggé, donc fou, hein, comme vous le savez, le Klezmer Band. Et nous allons écouter le numéro qui s'appelle Gassenigen, c'est-à-dire Mélodie de la rue. Voilà donc ce morceau très bien interprété par le Klezmer Band. Je vais quand même citer les différents artistes. Donc Stéphane Rougier au violon, Richard Rimbert à la clarinette, Sophie Teboul au piano, Mathieu Sterna à la contrebasse, Philippe Valentine à la batterie et Fernando Millet à la guitare. Voilà, et nous reprenons donc ces coutumes de Pessard. Alors là, il parle du deuxième céder, exactement la même chose. Et après, si j'ai bien compris, il dit, donc le lendemain du deuxième céder, on dîne à midi, donc en fait c'est le repas de midi, oui, il appelle ça dîne, et ensuite l'après-dîner consacré aux visites qu'on fait ou qu'on reçoit. Salomon, vu son rôle important dans la communauté, était de ceux qui attendaient les visites. Dans ce cas, en Alsace, on reçoit son monde à table où le chef de famille et tous les siens demeurent assis jusqu'à l'heure des vêpres. Oui, alors les vêpres du côté juif, c'est un peu étonnant, mais enfin, je pense que c'est Mincha. Le dessert reste sur la table et se renouvelle durant toute l'après-dîner à mesure que les visiteurs le consomment. Dès que quelqu'un entre, on l'accueille par ce salut hospitalier, Boruch Habo, ce qu'on fait partout. On lui fait prendre place à table et immédiatement, la servante pose devant lui un verre rempli du meilleur vin du pays. Vers les 2h30, la salle où nous nous tenions était presque comble. Le bruit des conversations était assourdissant. Il y avait là Yekel, le frère de mon hôte, avec de nombreux parents, le voisin Samuel, le ministre officiant, l'instituteur communal et le chameuse de Bolvillère. Quels étaient les objets de cette conversation bruyante et confuse ? Il serait difficile de le préciser. Le fait est qu'autour de moi, on parlait un peu de tout, de politique, de chemin de fer, de synagogue, d'élections consistoriales, de nomination de Parnossim, administrateur des communautés juives, de la foire à bestiaux de Lure et de Saint-Dié. Enfin, le coucou placé dans un coin cria 4 heures et l'assemblée se sépara pour aller à la prière de Mincha. Voilà, donc ensuite, Stauben nous explique que la fête des cabanes dure 8 jours, mais sur ces 8 jours, 4 seulement sont des jours de grandes fêtes. Les intermédiaires, au nombre de 4, sont des demi-fêtes seulement, appelées Chol HaMoed. Et ces demi-fêtes ont un caractère particulier. Pendant le Chol HaMoed, les hommes laissent là les grosses affaires et n'expédient que le courant. Les femmes, en demi-toilette, ne travaillent pas, mais se font visite ou se promènent soit aux abords du village, soit dans les villages voisins. C'est aussi pendant les jours de Chol HaMoed que les galants vont voir leurs belles et que se font d'ordinaire les fiançailles en Israël. Effectivement, le reste du chapitre est consacré aux préparatifs de fiançailles que font les différentes personnes dans ce village. Voilà, ben nous allons là laisser Stauben. Alors, je vous rappelle encore une fois que je vous recommande très très fortement un film qui n'a absolument rien à voir avec l'Alsace puisqu'il se passe en Slovaquie pendant la guerre, qui s'appelle « Le miroir aux alouettes », donc qui raconte l'histoire d'un menuisier qui est nommé pendant la guerre pour l'arianisation du commerce d'une vieille juive, jouée par Ida Kaminska, qui est une vedette du théâtre yiddish de Varsovie avant et après la guerre. Vraiment, c'est un film absolument remarquable. Il passe au Cosmos. Bon, il faut regarder les heures parce que c'est très compliqué, mais il va jouer jusqu'en mai, donc vraiment, je vous le recommande fortement. Et en attendant, je vous souhaite une joyeuse fin de Pessah, et puis on va terminer avec une autre musique du Klezmer Band. Shalom Aleichem et merci Thomas.
Le Yiddish, aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.